Bienvenue sur les éclairages, un épisode carrément spécial sur le coup, vu que je n'ai rien préparé, j'ai un petit peu honte, et que j'ai lancé l'appel sur Twitter il y a à peine une heure, et donc me voilà déjà avec quelques personnes qui sont venues gentiment agrémenter l'émission. Donc j'ai avec moi Azertov.
Salut.
Alors Cobal.
Salut.
Et Laurent Doucet.
Salut.
Alors bon, alors Laurent Doucet et Cobal, on s'est vus il n'y a pas longtemps finalement, donc...
Oui, il y a peu.
Voilà. Et Azertov, qui alors présente-toi Azertov, vu que les auditeurs ne te connaissent pas.
Alors pas du tout en plus. Oui. Donc moi c'est Azertov, 21 ans, employé.
D'accord.
Et un petit peu geek.
Oh bah ma foi.
Et donc, t'as une vie numérique spéciale ou
Pas du tout.
T'as un blog ou
Non, j'ai juste un compte Twitter et un compte Facebook, c'est tout.
Bah, ma foi, c'est
bien. Oh, ça se fait rare, c'est bien.
Alors, Cobal aussi, qui rempile, on va dire. Donc,
et oui, pour une deuxième
fois. Deux, trois trucs.
Oui, alors, je ne quitte pas ma marotte, évidemment, et je vais donc parler d'un jeu de rôle que je vais vous recommander.
Donc, on est dans la continuité de l'épisode précédent. Et Laurent Doucet, qui aussi, lui, rempile pour la...
Moi je rempile, je veux aussi parler de cinéma et puis je vais faire presque mon intéressant en vous parlant d'un film que j'ai vu et qui sort la semaine prochaine, je crois.
D'accord, voilà. Vous avez tous un petit truc à dire, sauf moi que j'ai pas grand chose à dire vu que.
Azertov, tu veux parler de quoi?
Oui, voilà.
Donc, moi je vais parler en fait des BD Reflets d'acide.
D'accord, bon bah on va tout de suite commencer, bah par exemple avec toi Azertov.
Ok. Donc en fait, Reflet d'acide, c'est une au début, c'est une saga MP3 diffusée sur Internet. Ouais. Donc c'est créé par JBX. Et en fait, oui, voilà, le fameux JBX.
Le fameux JBX.
Et donc en fait, c'est une adaptation d'un jeu de rôle parodique qui s'appelle L'œil noir. Donc en fait, il a créé d'abord ses épisodes en saga MP3 et ça a été édité ensuite en BD.
Alors comment on passe de la saga MP3 à la BD là? Je vois pas bien le...
Bah en fait, à mon avis, ça a plus suivi le schéma du Donjon Nullbug, donc qui était aussi une vieille saga MP3 qui a été édité, adaptée en BD aux éditions Clair de Lune. Donc à mon avis, c'est pour surfer un petit peu sur la vague, sur cette vague-là.
D'accord. Cobal, un petit mot sur l'œil noir, toi, t'as connu ça ou pas?
Est-ce que tu y as joué, Cobal?
Alors non, j'ai échappé à l'œil noir.
À moi pas, hein, donc...
Mais effectivement, c'était un grand classique qui a servi pour l'initiation des gens nés entre 70 et 75, on va dire.
Ah oui, c'est ouais. Pour...
C'est un truc très ancien, mais c'est surtout que c'était un... Enfin, moi, dans mes souvenirs, pareil, Cobal, tu me corriges, évidemment, si tu dis des bêtises, mais c'était un jeu de rôle, mais c'est surtout ils vendaient avec des petits cartons, avec des petites figurines représentant tes personnages, des damiers pour les déplacer, pas mal de choses, donc t'avais un petit côté figurine, mais qui était vendu, c'est ce qui était... Enfin, figurine. C'était du carton, entendons-nous bien, mais... et moi, à un moment où ça sortait, c'était les premiers à faire ça... En traduit en France, alors je sais pas, ça doit pas être français, je crois pas, je sais pas.
Non, c'est allemand.
C'est allemand.
D'accord.
C'est voilà. Un jeu allemand.
Et donc voilà. Par contre, c'était pas parodique pour moi, l'œil noir.
Non, là, c'est l'adaptation en fait, Reflet d'acide qui parodie l'œil noir.
Et pour le coup, les BD suivent vraiment bien l'histoire de Reflet d'acide ou pas?
Donc pour l'instant, en fait, il y a 3 tomes qui sont sortis. Et sur ces 3 tomes-là, ça suit vraiment l'histoire vraiment adaptée de la saga MP3 en BD.
Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de tricholiades?
Il y en a énormément, comme dans la saga, en fait.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'une tricholiade?
En fait, les tricholiades, c'est des allusions un petit peu détournées et un petit peu vicelards du personnage Trichelieu.
D'accord.
Dans le style, il est un petit peu, en fait, c'est un prêtre du culte de Chamrodia. Non, c'est pas Chamrodia, c'est...
Attends, on va savoir.
C'est le culte de Travia.
D'accord.
Faut bien prononcer le culte.
Ah, c'est fin en plus, ça a l'air...
Oui, bah c'est... Avec ce personnage-là, JBX se donne vraiment à fond.
Mais c'est une saga qui que je trouve meilleure que Nullbuck parce que en fait l'auteur à partir d'un certain nombre d'épisodes s'est mis à faire des alexandrins tout au long de l'épisode. Et donc, Richelieu, le fameux, qui est un espèce de prêtre pervers, arrête pas de faire des rimes foireuses. Voilà.
La tendance un peu limite, j'imagine.
Oui, voilà.
Par exemple, à un moment, drôle. Il fait sol, do, mi, sol, do, mi, sol, do, mi. Oh, et ça a une réplique et qui fait.
Ça me rappelle quelque chose.
Oh là là. Oui.
Il y a une réplique après, il fait tu veux que je te donne le la?
Ouais, d'accord. D'accord. Ok.
Oh mon dieu. Eh, ça a l'air bien. Moi,
c'est bon. Le genre, voilà.
Mais ça raconte quoi finalement?
Oui, l'histoire, en fait... l'histoire de Reflet d'acide en quelques mots. Qu'est-ce que tu peux nous dire?
En fait, c'est une quête qui n'a pas de nom. C'est la quête sans nom. Et c'est donc un groupe de personnages. Donc, t'as un nain, un elfe, un homme, le prêtre, donc Richelieu, et un monstre qui s'appelle Zeyerman, qui est pas vraiment un monstre, mais qui est un Zorling en fait. Donc, c'est une espèce un peu bizarre.
Oui, il y a une espèce de personnage démoniaque dans le groupe. Et il y a je ne sais plus quel personnage qui a un anneau qui lui permet de faire apparaître un aubergiste.
Oui, ça c'est bien. C'est le nain Zarakai en fait.
Oh, pas mal, ok.
Il crée ainsi comme ça le premier anneau avancateur de tavernier.
Il y a un concept, hein, c'est...
Oui, c'est très bien.
Du coup, dans son auberge, il a tout près un tonneau vide dans lequel il peut se mettre une fois qu'il est revenu, parce qu'il est téléporté à poil, en fait.
Oui, voilà, en fait, à chaque fois qu'il se fait téléporter, il n'y a que lui qui se fait téléporter, pas ses vêtements, donc à chaque fois, il est à poil. Et ça donne aussi, du coup, d'autres petites scènes un peu à la Tricholiade.
D'accord.
Ma foi, ça m'a l'air assez intéressant, moi je pense que je vais m'y intéresser.
Donc,
pas d'autre chose à dire à propos de...
Bah oui, que bah c'était donc au scénario, donc c'est toujours JBX pour l'adaptation, et qu'au dessin c'était Le Fab, donc qui a fait une histoire dans le monde du donjon de Nightbug qui s'appelle La Tour de Killa.
Oui, oui.
Et ça va durer, tu penses, ou c'est
divague? À ce jour, en fait, il y a déjà 15 tomes de sortie, 15 épisodes de la saga MP3,
ouais.
Avec une durée d'un épisode d'à peu près une heure environ.
Ah oui, quand même.
Et il y a un site où on va retrouver ça ou...
Oui, oui. Donc le site pour la saga MP3, donc c'est synopsesite.com.
C'est ceux qui hébergent Culture Breakdown.
Ah
oui,
Synops ça,
ouais.
Live.
C'est Synops Live. Et là, vraiment, oui, pour le reflet d'acide, ça s'appelle Synopsite. Après, il y a le site du dessinateur, Le Fab, qui est c'est plutôt un blog. C'est Le Fab, donc le-fab. blogspot.com.
Tu conseilles vraiment aux éditeurs, enfin même si on connaît pas par exemple Reflet d'acide la série audio, ou faut vraiment...
Oui, c'est très abordable. J'ai vu quelques commentaires sur leur site que c'était pour tout le monde, il y avait plusieurs degrés de lecture, que ça prêtait vraiment à être lu par tout le monde.
D'accord, ma foi.
Bon,
ça m'a l'air très intéressant.
Tout à fait.
Ah oui, et aussi le tome 4 va sortir le 4 novembre.
D'accord, je mettrai tout ça de toute façon sur le site, si quelqu'un lit le site, encore une fois.
Et j'ai pas trouvé le... Faut que tu redonnes bien le...
Oui, je redonnerai ça.
L'URL, hein. L'URL, pardon.
L'URL, ouais.
Oui, tiens. Pas de problème.
Alors, maintenant on va passer Cobal. Tu vas nous lire un petit
oui.
truc.
Oui. Alors, moi je vais vous présenter... pardon. Moi, je vais vous présenter un bouquin de jeu de rôle que j'ai découvert récemment, dont j'avais déjà entendu parler en bien il y a un petit moment. Donc, c'est un jeu de rôle qui s'appelle Apocalypse World par Vince Baker, qui est donc un auteur indépendant bien connu pour ses productions précédentes. Et franchement, c'est le jeu de rôle le mieux expliqué que j'ai jamais lu jusqu'à présent.
Le mieux expliqué.
Oui, tout simplement.
C'est-à-dire que cette fois, on a des tomes de 500 pages de règles, c'est ça?
Non, pas du tout. Le bouquin fait 300 pages, mais voyons voir. En gros, à la page 130, à partir de la page 130, le reste n'est qu'optionnel et autres.
C'est du background aussi.
C'est des règles, mais qui sont pas forcément utiles tout de suite.
C'est des règles avancées en fait.
Ouais.
T'as vu comment le péremptoire a bien retenu les termes depuis sa dernière émission?
Oui.
Ah, mais j'écoute très souvent Radio Release, j'ai encore écouté ça hier, tu vois. D'ailleurs, Pathfinder, la boîte d'initiation, je pense que...
Ah oui, elle est vraiment très sympa, cette boîte.
Ça m'intéresse beaucoup.
Alors, donc, dans ce jeu, en fait, le contexte n'est pas vraiment développé, c'est surtout au MJ de le faire, mais en fait, par les exemples qui sont donnés au travers des règles, on en a un aperçu. C'est un jeu qui est fait pour faire du Mad Max violent,
ouais, d'accord.
Du sexe, des larmes et du napalm enflammé.
Il n'y a pas de rock'n'roll.
C'est cool ça.
Oh, il y a peut-être du rock'n'roll, mais voilà, doucement quoi.
Alors, je pense que c'est un jeu de rôle à faire. Faut éviter le lait et les petits gâteaux avec ses amis. Faut plutôt taper dans la bière et dans la pizza, à mon avis.
La pizza, voilà. Ouais.
Exactement. Donc pour ce jeu, en fait, il y a tout un ensemble d'archétypes que l'on choisit en début de partie, qui vont de l'ange gardien, qui est quelqu'un qui soigne les gens, jusqu'au chien de guerre, qui est un malade avec plein de flingues sur lui. Et chacun de ces archétypes est sous la forme d'un livret que les joueurs vont se répartir. Et en fait, ce petit livret, je pense qu'en moins de 5 minutes temps réel, montre en main, on peut faire un perso. C'est-à-dire, on a un look, des caracs, des actions de base, et un nom également à choisir. Et ça, en 4 coups de crayon, on a terminé. Et après, on peut commencer de jouer. Alors, ce qui est génial dans ce jeu, ce sont les actions. En fait, à son tour de jeu, au lieu de d'avoir un choix vraiment total sur ce que l'on peut faire, ce choix est un peu plus guidé, mais il est guidé de façon à ce que l'on ait toujours des choses intéressantes à faire. Et les actions qui sont disponibles sont du genre agresser quelqu'un, agir face au danger, prendre par la force, faire le point, manipuler. Ça signifie que à chaque tour de jeu, le joueur doit choisir parmi ses options, ce qui fait que c'est un jeu super punchy où il y a énormément de répondants, en sachant que le MJ, il n'y a pas vraiment de boulot pour lui parce que c'est un jeu bac à sable où on construit tout au fur et à mesure. Donc voilà, c'est un très gros coup de cœur que je tenais à faire partager, et en plus le bouquin est même pas cher.
Et donc, on en parlait aussi hors émission, mais on se posait la question, est-ce qu'il y a vraiment des nanars dans le jeu de rôle? Est-ce que ça, tu peux en parler ou...
Ah,
c'est un
oui.
Petit truc, j'étais curieux de savoir, en fait, comme on parle souvent des nanars dans les films et dans les jeux de rôle, ou des... Ouais, voilà.
Alors, des nanars, alors après, en fait. La question va se poser entre des choses qui marchent pas ou des choses qui marchent et qui sont... alors, sur quels critères, on sait pas, mais pas bonnes.
Oui, alors il y a plein d'excellents jeux qui n'ont pas marché, hein, bien sûr.
Oui, oui.
Mais il existe effectivement une catégorie de jeux très restreints qui sont effectivement très mauvais. Donc,
balance.
Alors, depuis le mauvais à tendance mignon jusqu'au mauvais à tendance où on se dit que le bouquin est vraiment écrit par quelqu'un de particulièrement perturbé. Mais oui, il y a une petite sélection. Vous en voulez quelques-uns?
Allez, vas-y, allez.
Ah, moi, ça me plaît, tout ce qui est...
Alors, on pourrait commencer à aller cocorico par un jeu français qui s'appelle Magus, qui est bien connu dans le milieu. Donc, c'est un jeu qui est mal écrit, mal maquetté, mal illustré... Je ne sais que dire, c'est un jeu qui propose de jouer à plein de magie, il n'en propose que 3 ou 4, le système est extrêmement complexe avec plein de tableaux de chiffres qui ont été faits sous Excel et directement copiés-collés dans la maquette, ça se voit.
Oh, ça c'est dur ça.
Il y a des textes écrits en gothique, en noir clair, sur fond gris foncé.
Est-ce qu'il y a des textes en Comic Sans?
Probablement.
Donc il est lisible, le système est à la con.
Le système est à la con, il n'y a pas vraiment de background, les règles sont lourdes et nulles. La couverture, le dessin, c'est un vieux truc en noir et blanc pixelisé qui était absolument pas fait pour ça.
La vache, mais qu'est-ce qui on a une idée, parce que tu dis que c'est français, mais l'auteur, à part lui mettre les pieds dans le ciment au fond de la scène, t'as une idée de ce qui peut motiver un mec à produire et.
Ah ben, en fait, c'était juste le jeu auquel il jouait avec son groupe de potes depuis 20 ans, quoi. Donc, bon, je peux comprendre comment dire, le plaisir d'avoir imprimé son propre
Ouais,
jeu
t'es en train de dire que c'est de l'amateurisme, quoi.
pour soi-même, c'est sympa, quoi. Mais bon, c'est pas un bon jeu, non. Sinon, il y a l'exécrable fatal, qui est fatal, comme son nom l'indique.
C'est un jeu de rôle avec Michael Youn.
Alors, c'est un jeu américain qui propose comment dire, de simuler tout un tas de perversions sexuelles
D'accord.
Oh bien, ah ouais,
avec
ok.
des jets de dés afin de déterminer le diamètre maximal de dilatation d'un anus, tu vois, des
Oh
choses
la
comme ça.
vache! Mais qu'est-ce que c'est
On
que ce
reste très dans le
truc?
thème quand même avec Richelieu.
Non mais voilà, mais franchement je ne vous mens pas, il y a vraiment des choses comme ça. Donc quand je disais que ça a été fait par quelqu'un de perturbé, voilà.
Bah ouais, mais enfin l'éditeur aussi, à un moment, c'est pas le tout de
Bon,
l'écrire, faut le
sinon
publier, quoi.
après il y a des jeux qui sont plus mignons, plus rigolos, enfin ils sont mauvais mais au moins on peut en rire, quoi. Il y a par exemple le très mauvais World of Cinnibar,
Là.
qui est un
Comment t'écris
jeu
Cinibar?
Oui,
S Y S Y 2 I N I B A R.
déjà c'était pas prévu pour être vendu à la France, ça marche pas,
D'accord.
Alors c'est un jeu québécois, si je ne m'abuse. Donc c'est un jeu de space opéra dans lequel il y a des ratons laveurs avec des lance-roquettes, enfin.
c'est bien barré quand même.
Et il y a je sais
Ma
plus
foi,
quel
ça me
personnage
plaît.
qui tire des lasers avec les yeux, enfin. C'est un grand, une espèce de
N'importe quoi.
fantasme adolescent,
Il me semble que j'ai déjà entendu parler de ça. Je sais
déployé
pas.
dans toute sa splendeur, mais c'est très rigolo à lire. Et dernier choix, c'est un jeu québécois, mais francophone cette fois-ci. Alors, comment ça s'appelait ce truc?
Dans quelle
Ah,
division?
ça s'appelait Les Lois du Cristal. Et là, en fait, c'était tellement mal rédigé, c'était tellement horrible que, en fait, lorsque j'ai découvert ce jeu, on s'en lisait des extraits, de longs extraits, c'est d'un ton sentencieux, et j'ai rarement autant ri.
C'est comme se dire des répliques de films de nanar, quoi, c'est pareil.
Voilà, c'est ça, c'est un plaisir de collectionneur, on va dire.
Oui, parce que tu disais, rappelle que tu les achètes ceux-là quand tu les trouves en plus.
Il y a quelques années, je suis allé à Montréal et je suis allé à la boutique de jeux de rôle, le Valet de Cœur, là-bas, pour leur demander s'ils en avaient un exemplaire.
Mais t'ont pas regardé bizarrement?
Un peu, si, je crois.
Oh mon Dieu.
Ouais, mais le deuxième a l'air sympa à lire.
Ah ouais, non mais c'est un truc de ouf ça quand même.
Ah oui, il y a vraiment de tout. Voilà. J'espère que j'ai satisfait votre
Ah
curiosité
oui.
malsaine.
C'est
Oui,
gentil.
grandement là.
Moi, j'étais vraiment curieux de savoir ça. Et donc, Laurent, à toi, t'as quelque chose à nous conseiller?
Eh ben oui, moi je vais vous conseiller un film qui sort très prochainement, qui s'appelle Looper. Donc on commence à voir des affiches un peu partout. Looper, pour ceux qui ont raté la com autour, raconte l'histoire dans. Ça se passe en 2000, que je dise pas de bêtises, dans 2040, chose comme ça, dans une espèce de société assez dure. Ça veut dire que on voit une espèce. On n'est pas dans du post-apocalyptique, mais on est quand même dans un truc où t'as des gens partout dans les rues où c'est une misère totale pour la plupart des gens, et puis t'as une classe de privilégiés très au-dessus qui
Comme dans
sort en
Soleil Vert.
boîte. Oui, ouais, ça doit être ça. Et dans cet univers en 2040, on suit un personnage qui s'appelle. Hop, tiens, j'ai oublié le nom de famille, le prénom, c'est pas grave. Qui est joué par Joseph Gordon-Levitt, qui est un jeune qui réussit parce qu'il est looper. Et un looper, c'est un mec qui tue des gens, la mafia, en 2070, donc 30 ans après. le voyage dans le temps a été découvert mais est interdit. Et la mafia s'en sert pour envoyer des gens 30 ans en arrière pour que les loopers le fassent disparaître. C'est le meilleur moyen de faire disparaître un corps, c'est on l'envoie mec 30 ans en arrière. Et donc, les loopers, parce qu'ils sont plusieurs, dont le personnage Joseph Gordon-Levitt, pardon, il a une heure de rendez-vous, un endroit, il se place avec un espèce de tromblon, c'est une espèce de mousquet quasiment à l'ancienne. Et le mec apparaît et boum, il tire dessus, le mec est masqué, enfin il a une cagoule sur la tête, il le tue et il ramasse du fric qu'il y a dessus pour l'économiser. Tout ça
De
marche
faire
très très.
disparaître les corps dans le passé, quoi.
Tout à fait, voilà. Tout ça marche très bien jusqu'au jour où, et parce que c'est un peu expliqué, alors je vous raconte pas tout le film évidemment, le jeune Joseph Gordon-Levitt se retrouve face à quelqu'un qu'il reconnaît tout de suite comme étant lui-même 30 ans plus tard. Voilà, qui est incarné par Bruce Willis. Et de ça va découler beaucoup de problèmes. Voilà. C'est vraiment, alors, c'est réalisé par Rian Johnson, qu'on a son troisième film. Son premier s'appelait Brick, moi je ne l'ai pas vu, mais était déjà avec le jeune Joseph Gordon-Levitt avant qu'il devienne aussi célèbre que ça. Notamment avec. Il est devenu célèbre avec, 500, avec Inception, 500 jours ensemble. Dans le Dark Knight Rises récemment. Et c'est Ryan Johnson fait un film vraiment très intelligent, à tendance de science-fiction quand même, parce qu'on a du voyage dans le temps, on aura d'autres choses en plus que je vous révèle pas, mais voilà, il y a encore autre chose derrière. C'est très très beau, c'est assez virtuose, la réalisation a vraiment réussi. Ça, voilà. Il y a une deuxième partie un peu différente et il y a des gens qui aiment moins, mais moi je conseille quand même. Voilà, mais il y a tous les avis, vous aurez des avis assez variés, mais globalement, aujourd'hui, en science-fiction, de voir un nouveau film, c'est-à-dire qu'il n'y soit ni un reboot, ni un remake, ni une adaptation de licence, ni une adaptation de quoi que ce soit, avoir un vrai sujet nouveau, bien réussi, bien joué, vraiment beau, ben on aurait tort de se priver, donc faut vraiment pas hésiter, c'est vraiment une grosse, grosse réussite qu'a fait ce monsieur-là, avec un petit budget entre guillemets de 30 millions de dollars.
Oui, c'est vrai que
Ce qui est pas
c'est pas énorme, hein.
voilà et c'est surtout et ça a été dit par que par moi mais par d'autres ça a été un plaisir de revoir Bruce Willis un flingue à la main et pas ridicule et pas dans une merde
Ouais,
parce
mais il y aura bientôt Die Hard 5, donc on va
voilà
pouvoir retrouver Bruce Willis.
ouais c'est ça
J'ai un peu peur, personnellement.
je pense que ça va être dans la lignée du 4 que j'ai pas vu mais qui paraît qu'est une
Ah,
sombre daube.
il vaut
Il
pas
est
les
pas
trois
mal à
coups.
son effet.
Il est
Il est
quoi?
pas mal
Le
comme
4?
merde.
Ah, comme merde, ah oui, tu m'as fait peur à un
Bah
moment.
disons, ouais, c'est assez, ouais, ça vaut pas les trois premiers.
Ben non,
Mais
non,
c'est sûr.
ce que t'expliquais dans Looper, moi ça m'a rappelé, enfin, en gros, comme t'as dit qu'elle allait t'en parler, ça m'a tout de suite rappelé un bouquin que j'ai lu il y a pas longtemps en plus. Est-ce que vous connaissez Le Voyageur imprudent de Barjavel?
Non, j'ai pas lu celui-là.
Non, parce qu'en fait, comme t'expliquais dans Looper, que donc le héros principal se retrouve dans le passé, en gros, c'est ça. Et qui, enfin, ils essayent de se tuer, enfin, je
Tout
pense,
à fait.
vu ce que t'as
Il
expliqué.
se court après, en fait.
Et donc, ça rappelle un truc qu'a mis en place Barjavel dans son bouquin, et c'est le paradoxe du grand-père. Vous savez ce que c'est?
Oui, quand
C'est.
l'homme qui retourne dans le passé pour tuer son grand-père, voilà.
Oui, voilà. Il y a tout un, il y a tout, comment dire, si on va dans le passé et qu'on tue son grand-père, est-ce qu'on vit encore? Est-ce qu'on,
Ben oui, c'est toute la
enfin,
question.
il y a tout une réflexion là-dessus. Et donc,
C'est
dans le
un
bouquin
paradoxe.
de. Ben, je vais parler du bouquin vite fait. Donc dans Le Voyageur imprudent, donc on suit c'est Pierre Saint-Menoux, c'est un professeur de mathématiques qui rencontre un scientifique, c'est Noël Essayon. Et donc c'est le jeune professeur de mathématiques a des théories assez novatrices en mathématiques. Et le scientifique, ça intéresse le scientifique et grâce à ça, il a pu faire une découverte, c'est la noëlite, c'est une matière qui permet de voyager dans le temps en fait. Et donc
D'accord.
les deux vont se mettre enfin ensemble, ils vont faire leurs recherches ensemble. Et donc Pierre Saint-Menoux, le prof de mathématiques, il va visiter les époques en fait. Et donc le bouquin est donc il y a déjà plein de thèmes, on retrouve plein de thèmes de la science-fiction du voyage dans le temps, donc le voyage dans le passé, dans le futur, le héros qui va se rencontrer lui-même, les conséquences d'une modification de l'histoire. Enfin bref, il y a plein de trucs intéressants là-dessus. Et le bouquin, il fait on peut le découper en trois parties. Donc d'abord la découverte du voyage dans le temps, donc ils sont assez timides au début. On va juste aller une heure en avant, une heure en arrière pour voir ce que ça fait. Enfin, au début, c'est comme ça. Après, ils font vraiment des voyages dans le futur pour voir comment la société a évolué. Ils vont très loin. Ils vont voir comment Paris, enfin comment le monde a périclité en 2052, par exemple. Ils vont aller jusqu'à l'an 100 000 pour voir une nouvelle descendance d'humains. Enfin, c'est plus vraiment des humains. Ils ont plus vraiment l'apparence d'humains. Enfin, il y a toute une nouvelle race humaine qui s'est mise en place. Et aussi, pour finir, il va dans le passé pour essayer d'influer sur le déroulement des événements, en fait. Et donc, c'est là, bon, je peux le dire, en fait, il va essayer de tuer son grand-père, un de ses ancêtres. Et donc, c'est là qu'on voit le souci du paradoxe du grand-père. En
fait. D'accord. Ben, pour rebondir un peu, en plus, on a eu la chance, moi, quand je l'ai vu, on a eu une comment on appelle ça, une petite interview, enfin un échange avec le réalisateur juste après, et il explique que lui, il ne s'est pas trop attardé, enfin, il s'en sert beaucoup. Il y a une scène notamment très impressionnante où on voit que ce qui arrive physiquement au personnage jeune s'est répercuté sur le personnage âgé. Mais que lui, c'est vraiment une histoire d'expliquer, on reste sur des personnages, on reste sur quelque chose, c'est un moyen, c'est pas une fin, il va pas passer son temps, et ce qui est d'ailleurs, je trouve souvent intelligent à faire, à expliquer, parce que forcément, plus on essaye d'expliquer le voyage dans le temps, plus on se cogne les pieds partout. Donc vraiment, enfin, lui, il gère vraiment bien son histoire de voyage dans le temps, qui lui sert suffisamment pour être très intéressant, mais sans rentrer dans un détail hyper compliqué, hyper... Je trouve que c'est très très beau quand des films osent... Alors, on a tous Retour vers le futur en tête, où il y a une espèce d'explication, d'ailleurs complètement débile, hein, entre nous. Il comprend le voyage dans le temps en se cognant la tête sur la cuvette des toilettes. Mais on a besoin souvent d'avoir des explications, là on n'en a pas beaucoup, et ça m'évoque un petit film dont je parlais très rapidement, qui s'appelle Peut-être, de Cédric Clapiche, qui est avec Belmondo et Romain Duris, où Romain Duris il fait la fête pour l'an 2000, et dans les toilettes il y a du sable qui tombe de la trappe du plafond, et il monte et il se retrouve dans un Paris ensablé, dans un Paris qui est recouvert de sable, où il retrouve Belmondo qui joue son arrière-arrière-petit-fils. Et c'est absolument génial, et beaucoup de gens n'ont pas aimé, parce qu'il n'y a aucune explication. C'est-à-dire que voilà, il y a une...
Oui, ils sont, ouais.
Et ouais. C'est plutôt agréable, je trouve, des fois, d'avoir ce côté-là pas explicatif, et voilà. Mais vraiment... Foncer sur Looper, c'est vraiment une réussite. Enfin, dès qu'à partir du moment où on aime un peu cette ambiance-là, c'est vraiment bien.
Parce que là, c'est vrai que la bande-annonce donnait vraiment envie.
Oui, mais là, dans Looper, on est plus sur la relation entre le personnage du futur et du présent, enfin, peu importe. On n'est pas dans l'explication du temps en lui-même. Quoi.
Du tout. Non, c'est vraiment les choix qu'on fait, où est-ce que ça nous mène, c'est toutes ces questions-là... qui sont posés et qui vont être illustrés de manière assez brillante.
Et ça sort quand alors ? Ça sort bientôt ?
C'est déjà sorti. Le 31 octobre.
Bon, ouais, donc 31
octobre. Donc ça sort le 31, voilà, le jour d'Halloween.
D'accord, bon, bah, ma foi. Je pense que j'irai le voir. Je pense que j'ai plus à aller voir ça que qu'Astérix finalement. Parce que...
bon, bah, voilà, ça me paraît judicieux.
Ça me paraît pas mal.
Quitte à mettre des sous, autant aller voir Looper, je pense.
Non, c'est vraiment, ça fait plaisir. De les voir tous les deux face à face, ça marche très bien.
Ouais. Bah écoute, moi ça m'intéresse. Bon, bah merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup, merci à tous d'être venus. Azertov, on te retrouve sur Twitter.
Oui, c'est ça, donc c'est Azertov avec deux F.
D'accord. Et bah merci d'être venu en tout cas.
Bah de rien.
C'était un petit peu à l'arrache de dire. Laurent, on te retrouve où ?
Moi sur Laurent Doucet sur Twitter, voilà, LAURENTDOUCET. Et sur le Broclash, BROCLASH avec mon frère Arnaud, dont le prochain épisode va sortir, mais pas tout de suite, parce que là, le dernier est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ouais. Voilà, vous pouvez aller sur le site, l'écouter et voter pour donner votre avis. Voilà. Et voter. Et... tout simplement.
Oui. Et donc, Cobal, on peut te retrouver ?
Alors, moi, on peut me retrouver donc, sur Twitter, @Cobal. Et puis aussi dans Radio Rôliste, donc radio-rôliste.net, pour mon émission. Et d'ailleurs, il y a la 19e qui vient de sortir.
Voilà. Oui,
qui parle de quoi
en plus.
Et qui parle de quoi
Pathfinder,
qui parle d'Apocalypse World, qui parle également de Smallville, de la boîte d'initiation à Pathfinder et d'Artung Cthulhu.
Avec bon. Les nazis et Cthulhu. Ça.
Voilà, exactement.
Bah, c'est le début de Hellboy.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est
ouais,
ça.
Ouais, c'est, on peut dire ça comme ça. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup. Hein, parce que
merci
c'était
à toi.
Vraiment eu un rendez-vous
merci.
Assez. On va dire que c'était complètement à l'arrache, complètement improvisé. Donc, merci à tous d'être venus et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Allez, salut.
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 Salut.